Bonjour, vous êtes sur Radio Picasso. Landry, Zacharia, Marianne et Stella, élèves en terminale au micro. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le sujet des tensions au Moyen-Orient entre l'État palestinien et l'État d'Israël dans le cadre de notre thème « Faire la guerre, faire la paix » de notre programme de spécialité terminale AGGSP. Nous allons nous concentrer sur la période entre 1979 à 2001, marquée par de nombreuses tensions locales et territoriales, ainsi qu'un conflit civil, mais aussi des tentatives de paix internationales autour de la question d'un État palestinien. Tout d'abord, afin de mieux comprendre les enjeux entre 1979 et 2001, il est nécessaire de connaître le contexte historique. En effet, depuis 1948, le Moyen-Orient subit de fortes tensions, notamment autour de l'État d'Israël, qui est en conflit avec ses pays voisins, traduit par la guerre israélo-arabe. En 1977, dans une volonté de mettre fin à ces conflits, le président El-Sadat d'Égypte se rend en Israël. Il est le premier président arabe à se rendre en Israël. Cela crée une véritable rupture diplomatique au sein du monde arabe. Elle marque la première tentative de paix. Mais cette tentative de paix était-elle la seule?
Non, la période de 1979 à 2001 est une période marquée par de nombreuses tentatives de paix. En effet, cet événement de 1977 a ouvert un dialogue entre l'État d'Israël et les pays arabes voisins qui aboutit en septembre 1978 aux accords de Camp David. Ce traité de paix israélo-égyptien, signé par le président américain Jimmy Carter, M. Sadat et M. Begin, marque la fin des affrontements.
Pouvez-vous nous dire qui est El-Sadat ?
Oui, de son vrai nom Anwar El-Sadat, et le président de la République d'Égypte en 1970, le successeur après la mort de Nasser, et il est militaire. Durant son mandat, il se rapproche des États-Unis. En 1977, il effectue un voyage historique en Israël, déjà évoqué précédemment, et signe en 1978 avec M. Begin les accords de Camp David. Il est finalement assassiné en 1981 par des islamistes.
Vous parlez d'un monsieur Begin. Qui est-il ?
Il est le premier ministre d'Israël de juin 1977 à octobre 1983. C'est un militaire qui a participé à la guerre israélo-arabe et il est l'un des acteurs principaux des accords de Camp David. Grâce à ces accords, il obtient notamment le prix Nobel de la paix en 1978.
Y a-t-il eu d'autres avancées dans les tentatives de paix ?
Oui, le 15 novembre 1988, l'OLP proclame l'indépendance de l'État de Palestine et reconnaît l'État d'Israël. Cette déclaration crée l'État palestinien en suivant les tracés de 1947 de l'ONU. Cela crée donc deux États distincts.
Vous évoquiez le groupe de l'OLP. Pouvez-vous nous en dire plus ?
L'OLP, c'est une organisation de libération de la Palestine fondée au Caire en 1964, d'abord imaginée comme un mouvement nationaliste arabe par les membres de la Ligue arabe dans le but de libérer la totalité de la Palestine. Puis la débâcle des armées arabes pendant la guerre des six jours de 1967 a changé le mouvement en une organisation de guérilla palestinienne.
Je ne comprends pas le terme de guérilla, comment le définiriez-vous ?
C'est une forme de guerre irrégulière, donc une guerre qui oppose un groupe non étatique face à une armée conventionnelle. Les guérillas sont caractérisées par des actions de harcèlement, d'embuscade ou de coups de main.
Il y a-t-il eu un accord de paix entre ces deux États, la Palestine et l'Israël ?
Oui, grâce aux États-Unis, qui poussent leur allié arabe à la reprise des négociations avec l'Israël après la première guerre du Golfe de 1991. Une conférence de la paix est donc organisée à Madrid de la même année. Elle aboutit en 1993 avec les accords d'Oslo signés par Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, avec pour médiateur le président américain Bill Clinton. Ces accords mènent une politique de solution à deux États distincts.
Pouvez-vous nous préciser qui est Arafat ?
Arafat est issu d'une famille palestinienne installée en Égypte. Il a organisé, en 1959, un mouvement palestinien autonome, le Fatah, qui mène des opérations armées contre Israël. En 1969, il est devenu le président de l'OLP. En 1974, il est invité à l'ONU en tant que représentant légitime du peuple palestinien. Il a signé les accords d'Oslo de 1993 et obtient le prix Nobel de la paix en 1994.
Et que pouvez-vous dire sur Rabin ?
Rabin est le premier ministre israélien et un des signataires des accords d'Oslo qui lui vaut le prix Nobel de la paix de 1994. Il a participé à la première guerre israélo-arabe de 1948 à 1949. C'est devenu un héros national. Il a été ambassadeur aux États-Unis de 1968 à 1973. Il est assassiné par un extrémiste israélien le 4 novembre 1995.
Vous parlez de réussite. Cela veut-il dire qu'il y a eu des échecs ou des reculs dans ces tentatives de paix ?
En 1987, il se déclenche une guerre dite asymétrique appelée Intifada, qui oppose un groupe non étatique, les jeunes civils palestiniens, à une armée conventionnelle, soit celle de l'État d'Israël. Cette guerre ne s'arrêtera qu'en 1993 avec les accords d'Oslo.
Que signifie le terme Intifada ?
Cela signifie soulèvement en arabe. C'est une révolte déclenchée en 1987 puis en 2000 par des jeunes palestiniens qui jettent des pierres aux soldats israéliens. Les affrontements durent 6 ans et font au total 1100 à 2000 morts chez les Palestiniens et 200 à 300 chez les Israéliens.
La paix a-t-elle connu d'autres difficultés ?
Malheureusement oui, une paix négative, c'est-à-dire sans affrontement direct, a été maintenue malgré l'assassinat de Yitzhak Rabin, donc le premier ministre israélien, par un extrémiste nationaliste religieux en 1995. Mais elle ne résiste pas à l'échec du sommet de Camp David II en 2000, qui, après la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, déclenche la deuxième intifada.
Quels sont les freins à cette paix ?
D'abord, les colonies israéliennes sur le territoire palestinien qui créent une fragmentation des deux États et fragilisent les accords d'Oslo de 1993. Ces colonies créent un flou dans les frontières entre les deux États. De plus, des acteurs comme le Hamas s'opposent aux décisions des États.
Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le Hamas ?
Cela signifie « zèle » en arabe et c'est un acronyme pour « Mouvement de la résistance islamique » fondé en Palestine durant la première intifada en 1988.
Qui étaient ces acteurs et de ces tentatives de paix ?
D'abord, évidemment, il y a les États concernés directement, tels que l'Israël et la Palestine, mais aussi des puissances étrangères comme les États-Unis, qui dans un contexte de guerre froide souhaitent aider leur allié Israël et se montrer comme un facteur de paix face à l'URSS, mais aussi des institutions internationales telles que l'ONU et des organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch et Taïouf. Il est aussi important de ne pas oublier les combattants irréguliers représentés notamment par les milices et le Hamas.
Pourquoi parle-t-on de tentative de paix internationale ?
Parce que des puissances étrangères au conflit interviennent. On le voit notamment aux États-Unis dans les accords d'Oslo, mais aussi à l'ONU dans le découpage des États de 1947.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces tentatives de paix internationales. On comprend mieux les avancées et les reculs liés aux différents acteurs. Cependant, on peut aussi voir que ces tentatives de paix sont sujettes aux tensions locales. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Donc ces tensions locales sont tout d'abord dues au retour des Palestiniens.
Pourquoi ces Palestiniens se sont exilés ? Dans quel contexte ?
En 1947, l'ONU a proposé un plan de partage où 55% du territoire serait un État juif et 45% du territoire un État arabe. Il y a une opposition des Palestiniens et de tous les pays arabes face à ce partage du territoire. Quand l'État d'Israël naît, en 1948, les pays voisins lui déclarent la guerre. C'est alors que la guerre israélo-arabe a lieu. Suite à cette guerre, le territoire est redéfini. 78% du territoire devient un État israélien et 22% un État arabe. Ce partage du territoire engendre l'exode de millions de Palestiniens. Cette période est aussi appelée Nakba, qui veut dire catastrophe.
Et ce retour des Palestiniens est-il une bonne chose ?
Certains sont favorables à ce retour, comme l'ONU, avec le droit de retour qui permet aux réfugiés souhaitant rentrer chez eux de le faire. Les pays arabes voisins soutiennent aussi ce retour, le considérant comme un droit fondamental, et une étape vers une entente et une résolution juste du conflit. D'autres, comme l'État israélien, considèrent ce retour massif comme une menace. Israël propose des solutions alternatives, comme l'installation des réfugiés dans des territoires palestiniens, comme à Gaza ou en Cisjordanie.
Quelles sont les autres explications à ces tensions locales ?
L'État israélien étant contre leur retour, les Palestiniens se révoltent en 1987, ce qui donne, comme précédemment dit, la première intifada. On peut aussi noter que le dirigeant égyptien, El Sadat, et israélien, Rabin, se sont fait tous les deux assassiner par des extrémistes pour avoir signé des accords qui permettaient la paix entre les deux pays. Cet accord a été vu comme une trahison par les extrémistes. Une deuxième intifada a aussi eu lieu de 2000 à 2005.
Est-ce qu'on peut parler de conflit civil dans ces tensions locales ?
Tout à fait, car un conflit civil, c'est un conflit armé interne qui oppose des groupes appartenant à un même pays ou territoire. Ces groupes peuvent être constitués de forces gouvernementales, de rebelles, de communautés ethniques ou religieuses. L'objectif peut varier, que ce soit de renverser le pouvoir en place, obtenir une certaine autonomie ou défendre des revendications. Dans ce cas-là, l'objectif est de renverser le pouvoir.
Merci beaucoup de nous avoir expliqué ces tensions locales. On va pouvoir passer aux tensions territoriales.
Il faut savoir que le territoire d'Israël et de la Palestine est divisé en trois parties. La bande de Gaza et la Cisjordanie pour la Palestine, ainsi qu'un territoire israélien. La bande de Gaza se situe entre l'Égypte et Israël, au sud-ouest, et la Cisjordanie se situe à l'est. Entre les deux territoires palestiniens se situe le territoire israélien. Cependant, l'agencement du territoire peut mener à plusieurs conflits territoriaux car les frontières ne sont pas toujours respectées. C'est le cas notamment pour les colonies israéliennes par exemple.
Que sont les colonies israéliennes ?
Ce sont les habitants israéliens quittant le territoire d'Israël afin de s'installer en Cisjordanie. Ce phénomène a débuté en 1967, mais s'est fortement accéléré depuis 1977. On passe de seulement quelques maisons à de villes entières. C'est le cas notamment pour la ville d'Ariel, comportant 20 000 habitants, ainsi qu'une université. On parle là de territoires occupés.
Pouvez-vous nous expliquer le terme de territoire occupé ?
Ce sont des territoires de population palestinienne occupés par l'armée israélienne depuis 1967, dont l'ONU réclame l'évacuation.
Quel est le souci avec ces colonies ?
Ces colonies sont complètement illégales. En effet, les habitants israéliens entrent clandestinement sur les territoires palestiniens. Ainsi, le territoire palestinien se retrouve morcelé par des zones devenues totalement israéliennes, étant donné qu'il y a plus de 475 000 Israéliens en Cisjordanie.
Pourquoi les Israéliens ont-ils recours à ces colonies ?
Dans un premier temps, le but de cet envahissement est religieux. Selon certains Israéliens, cette terre a été promise aux Juifs dans la Bible et ils doivent donc en recouvrir l'entièreté. Dans un second temps, certains Israéliens recherchent seulement une meilleure qualité de vie. Les logements sont plus abordables, la sécurité est assurée pour eux dans ces zones-là. Enfin, certains juifs restés orthodoxes cherchent seulement à vivre à l'écart. Cela veut donc dire que la ligne verte de 1949 n'est pas respectée.
Quelle est cette ligne verte ?
C'est la ligne de démarcation établie après la guerre israélo-arabe de 1948-1949. Deux territoires sont donc infranchissables dans la loi pour Israël, la bande de Gaza ainsi que la Cisjordanie.
Et la ville de Jérusalem se situe-t-elle sur le territoire israélien ou palestinien ?
Eh bien, c'est une très bonne question, car la ville de Jérusalem est coupée en deux. Considérée comme une ville sainte, c'est la capitale de la Palestine et d'Israël.
Comment cette ville est-elle organisée ?
Elle est organisée en deux parties. Jérusalem-Ouest, qui appartient à Israël, et Jérusalem-Est, qui appartient à la Palestine.
Il doit y avoir une forte diversité culturelle au sein de la ville.
En effet, le quartier de la vieille ville, se situant entre Israël-Ouest et Israël-Est, regroupe trois cultures différentes étant donné que c'est une ville sainte pour les musulmans, les chrétiens ainsi que les juifs. Ce quartier est donc indivisible.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces tensions territoriales. On peut donc conclure que la période de 1979 à 2001 est marquée par de nombreuses tentatives de paix, dites internationales, car des acteurs de différentes origines interviennent dans ce conflit. Cependant, les tensions locales et territoriales persistent, notamment à cause des colonies israéliennes. Merci de nous avoir écoutés, c'était Marianne, Zacharia, Landry et Stella au micro sur Radio Picasso. Thank you.